France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Sous pression des États-Unis, l'Ukraine avait accepté en début de semaine le principe d'une trêve immédiate, sauf qu'hier, Vladimir Poutine a émis des réserves et dans ce contexte, on se demandera si Washington a encore ou non les moyens de faire pression sur Moscou. La température au Groenland a encore monté d'un cran sur l'île. Le Premier ministre sortant a convoqué aujourd'hui tous les chefs de partis politiques pour réagir à la nouvelle provocation de Donald Trump, bien décidé à annexer le territoire autonome. L'actualité en France, c'est notamment un sinistre anniversaire 3 mois après le cyclone Chido. Où en est-on de la reconstruction à Mayotte? On posera la question à notre invité. Enfin, on tâchera de décrypter la nouvelle formule du Nutri-Score validée ce matin par le gouvernement. Depuis la proposition de paix présentée par les États-Unis à l'Ukraine, tous les regards étaient rivés sur la réaction de la Russie. Or, hier, si Vladimir Poutine a dit soutenir sur le principe l'idée d'un cessez-le-feu, l'agresseur en chef juge que des questions importantes doivent encore être réglées, manière de ne pas rejeter frontalement la proposition américaine, sauf que l'éventail des clarifications demandées par le maître du Kremlin, comme les conditions qu'il semble considérer comme nécessaires pour mettre un terme à cette guerre impérialiste, mais que lui juge existentiel, ne sont pas franchement de nature à rassurer quant à la possibilité de voir se conclure rapidement, ne serait-ce qu'une trêve dans ce conflit, rappelons-le, le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors Volodymyr Zelensky a aussitôt dénoncé des propos manipulateurs, et d'ailleurs en attendant, la Russie continue à jeter toutes ses forces dans la bataille pour reprendre le contrôle du territoire occupé par l'armée ukrainienne à Koursk, ce qui, le cas échéant, signifierait évidemment pour Kiev la perte d'un atout majeur pour de futures négociations. Quant à Donald Trump, il a jugé que son homologue russe avait fait une déclaration très prometteuse, bien que incomplète. Toujours est-il que si l'administration américaine avait estimé que la balle était désormais dans le camp de la Russie, il semblerait bien qu'hier, elle lui soit revenue en pleine face. Dès lors, Washington a-t-il encore des leviers susceptibles de faire plier Moscou? Élément de réponse avec Nathanaël Charbonnier.
La première chose à dire, c'est que oui, Poutine veut gagner du temps pour aboutir à une capitulation ukrainienne. Mais si le président russe ne semble pas pressé, l'économie de son pays ne dit pas la même chose. Elle se tend en ce début d'année. Les taux d'intérêt sont à 21% du jamais vu depuis 20 ans. Autre moyen de pression, les sanctions. Trump a ainsi décidé de ne pas renouveler une autorisation permettant aux banques russes de continuer à utiliser les systèmes de paiement américains pour des opérations liées au pétrole. S'ajoute encore un moyen plus psychologique, celui de la menace liée aux réactions du président américain qui sont parfois difficiles à prévoir. Pression encore à l'initiative de l'Europe, cette fois celle qui consisterait non pas à confisquer mais à donner l'argent des avoirs russes aux Ukrainiens. Cela est tout à fait possible, explique l'eurodéputée Nathalie Loiseau. Elle était sur France Info ce matin.
Ça, c'est juridiquement solide. C'est de prêter cet argent à l'Ukraine. L'Ukraine le gage sur les réparations que lui doivent la Russie. Et si la Russie ne lui paye pas de réparations, l'Ukraine nous demande le transfert de ses fonds et elle les confisque. Juridiquement, c'est imparable. Et je voudrais qu'aujourd'hui, les États membres, y compris le mien, me disent pourquoi on ne le ferait pas.
Enfin, dernier moyen de pression, celui qui consiste à renforcer la présence militaire européenne aux frontières de la Russie.
De l'usage décomplexé de la force au mépris à l'égard de ses alliés, en passant par le rejet du droit international. Chaque jour qui passe depuis l'investiture de Donald Trump permet de sonder l'ampleur du séisme créé par le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche. Hier, nouvel épisode de cette turpide désinvolture face au chef de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte, venu plaider auprès de lui la cause de l'OTAN. Le président américain a répété son intention d'annexer le Groenland. Alors, du côté du territoire autonome danois, les tentatives d'intimidation de Donald Trump ont été jusqu'ici largement rejetées. D'ailleurs, à ce titre, la victoire mardi dernier aux élections législatives du parti d'opposition de centre-droit peut être lue comme un non-merci sans embâge adressé à l'administration américaine, ce qui, Étienne Monin, n'empêche pas, visiblement, donc Donald Trump de claironner une forme de nouvel impérialisme avec une insolence totalement assumée.
La scène ne manque pas de piquant. Hier, on a vu le président des États-Unis se tourner vers le secrétaire général de l'OTAN devant les caméras pour lui demander au déboté de l'aider à annexer le Groenland. Mark Rutte a tout de suite botté en touche en disant qu'il ne voulait pas entraîner l'OTAN dans ce débat. Mais cela démontre que le sujet est une obsession pour Donald Trump, qui a répété à nouveau que les États-Unis ont besoin du Groenland, que c'est une question de sécurité et que l'annexion aura lieu. Cette scène a provoqué un état de choc au Groenland. Le Premier ministre a décidé de réunir les chefs de parti. Knut Hegde a déclaré qu'il fallait durcir le rejet de Donald Trump. « Assez, c'est assez », a-t-il écrit sur Facebook. On ne doit pas continuer à nous manquer de respect. Il y a un consensus dans l'île pour rejeter le rattachement aux États-Unis, mais le résultat des élections législatives mardi a rebattu les cartes. Les deux partis au pouvoir ont été rejetés. À la surprise générale, l'opposition de centre-droit est arrivée en tête devant le parti nationaliste qui a doublé son score par rapport aux élections précédentes. Une nouvelle coalition doit maintenant être négociée avec un nouveau Premier ministre. L'indépendance de l'île est au centre de tous les agendas, mais ça n'est pas une urgence. Les responsables politiques souhaitent aujourd'hui assurer l'autonomie financière. Pour l'instant, la défense et les affaires étrangères de l'île restent une compétence du Danemark.
Jour de shutdown budgétaire aux États-Unis.
En l'absence d'accord au Sénat sur un texte soutenu par Donald Trump, mais rejeté jusque-là par les démocrates, lesquels dénoncent des coupes drastiques, les États-Unis se retrouveront à minuit en situation de paralysie budgétaire, avec notamment pour conséquence la mise en chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires. Une situation qui devrait toutefois être évitée. Comment ? Grâce au ralliement de dernière minute des démocrates qui redoutent davantage encore qu'une telle paralysie ne donne à Donald Trump carte blanche pour accentuer encore le démantèlement déjà à l'œuvre des agences fédérales. À 79 ans, Rodrigo Duterte devrait comparaître pour la première fois cet après-midi devant les juges de la Cour pénale internationale. L'ex-président philippin est suspecté de crimes contre l'humanité pour des meurtres commis lors de sa sanglante guerre contre les trafiquants et usagers de drogue. Une affaire qui tombe par ailleurs à un moment crucial pour la CPI, sous le feu des critiques et même sous le coup de sanctions américaines.
La Syrie face à ses propres démons.
Les massacres commis la semaine dernière avaient jeté un doute sérieux sur la capacité du nouveau pouvoir en place à asseoir son autorité et surtout à mettre en œuvre un fragile processus de transition. Et bien hier, nouvelle page de l'histoire du pays, au propre comme au figuré, le président par intérim Al-Shara a signé une déclaration constitutionnelle qui établit non seulement une séparation stricte des pouvoirs, mais garantit par ailleurs un large éventail de libertés, de droits sociaux, économiques et politiques.
C'est un aliment quotidien, en même temps qu'un ingrédient indispensable de la cuisine japonaise.
Le riz est devenu, pour certains, inabordable. Le prix du traditionnel paquet de 5 kilos a presque doublé en un an sur l'archipel. Un fait inédit et qui oblige à présent le gouvernement à puiser dans ses réserves. Reportage à Tokyo de notre correspondante Karine Nishimura.
Dans ce supermarché de Tokyo, on rationne.
Oui, on limite à un seul paquet par personne. Ces derniers temps, les stocks sont de nouveau insuffisants et les prix ont augmenté. Et encore, ici, c'est probablement moins cher qu'ailleurs.
L'État pense résoudre cette situation anormale en débloquant 210 000 tonnes de riz issues des réserves stratégiques d'habitude utilisées en cas de catastrophe naturelle. Taku Eto, ministre de l'Agriculture.
Les magasins achètent à prix élevé et doivent donc augmenter le tarif en rayon pour conserver des marges. Tant que les arrivages nouveaux n'auront pas atteint un certain seuil, les tarifs ne baisseront peut-être pas. Mais nous espérons un apaisement grâce à ces déblocages de réserves en cours et un meilleur équilibre entre l'offre et la demande.
Depuis l'été 2024, les prix du riz flambent, mais l'État réfute la thèse de la pénurie et renvoie la faute sur des distributeurs qui ralentiraient volontairement l'approvisionnement. D'où la mise aux enchères de stocks stratégiques, mais la baisse des tarifs en rayon n'est pas garantie, car ces stocks sont vendus aux distributeurs les plus offrants, qui n'ont pas intérêt à ce que les prix chutent trop. Des experts estiment en outre que la pénurie est latente et qu'à ne pas la reconnaître, le gouvernement commet une lourde erreur.
Un reportage à Tokyo signé Karine Nishimura. C'était il y a 3 mois, jour pour jour, le cyclone Chido s'abattait sur Mayotte avec une violence inouïe, emportant tout sur son passage au point de laisser derrière lui un archipel méconnaissable. Et bien aujourd'hui encore, les défis restent colossaux, sans compter que le cyclone n'aura fait qu'aggraver en réalité des crises déjà bien ancrées sur place, qu'il s'agisse de l'accès à l'eau, à la nourriture, à un logement ou à la santé. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Nicolas Delon, architecte et cofondateur du collectif Encore Heureux Architecte. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je précise tout de suite que vous revenez tout juste de Mayotte, où vous vous étiez déjà rendu une première fois en janvier dernier, donc juste après le cyclone. Qu'avez-vous constaté sur place ? Est-ce que la situation matérielle des habitants notamment a évolué entre vos deux voyages ?
Ce qui est perturbant, c'est qu'on pensait que ça s'améliorerait et on est obligé de constater que ça se dégrade, que ce qui n'a pas tenu le cyclone n'est pas réparé, n'est pas réparable pour certaines choses, que la crise de l'eau est gigantesque. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu des crises de l'eau avant Chido, mais que là aujourd'hui on est vraiment dans un moment où les gens se battent pour un pack d'eau, on ne sait pas où est l'eau, on ne sait pas s'il y a de l'eau, donc il y a vraiment un mélange de désespoir désespoir et de colère très fort que j'ai pu observer à tous les niveaux de la société, à toutes les échelles et dans tous les endroits de l'île.
Aussitôt passé le temps de l'aide d'urgence, le sujet de la reconstruction de l'archipel avait fait, on s'en souvient, l'objet de toutes les attentions. Alors dans les médias, mais surtout et d'abord chez les représentants des pouvoirs publics, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que les institutions locales ou à l'échelle de l'État d'ailleurs sont présentes aux côtés de la population mahoraise?
Alors, il y a là aussi une grande question qui est la communication qui est faite sur cette reconstruction. On pourrait aussi parler de réparation, parce que en fait, il faut plutôt réparer Mayotte que la reconstruire. Et il y a une absence complète de vision, de communication, d'information. Et donc, on sait qu'il y aurait de l'argent qui aurait été débloqué, mais où est cet argent? On sait qu'il y aurait un général qui aurait été nommé, mais où est-il? Quelle est la structure publique qui va porter cette réparation et reconstruction? Et donc là, je discute avec des élus, avec des DGS, avec des gens dans les communes qui disent, nous, par exemple, nos écoles primaires sont à plat et on ne les répare pas car l'État nous a dit qu'il allait les réparer. Mais en fait, aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que ces écoles ne sont pas réparées. Donc il y a vraiment un déficit gigantesque d'informations et personne ne sait trop vers qui se tourner. Donc ça, c'est une question aussi qui renforce la défiance démocratique et la défiance aussi envers l'État. Il faut savoir qu'il y a une histoire aussi très particulière de ce territoire à la France. Et donc, on a le sentiment que Chido, qui aurait pu être l'occasion de transformer, de faire différemment, mais aujourd'hui, on est plutôt face à un mur et face à aussi un épuisement des équipes, y compris des équipes, des structures publiques. Parce qu'il faut savoir que tout le monde est en choc post-traumatique. La totalité des habitants qui étaient présents le 14 décembre ont vécu Chido. Et donc, il y a cette fragilité aussi psychologique dont on parle assez peu, mais que chaque fois, j'ai pu vraiment mesurer.
Ça veut dire qu'au-delà même de la question des moyens, il y a un problème de coordination?
Exactement. Moi, je pense que le premier sujet, c'est une question de méthodologie, d'organisation. Quand on veut faire une action, c'est notre métier d'architecte, on conçoit, on organise et on fait. Et là, aujourd'hui, il y a un flou sur qu'est-ce qui est conçu, quelle réponse on va apporter à ce territoire très particulier. Ensuite, comment on l'organise? Alors là, c'est plus qu'un flou, c'est un désert. Il n'y a aucune vision d'organisation. Et enfin, on passe à l'action. En fait, dans ces trois étapes-là, on a besoin d'expliquer, on a besoin de raconter, on a besoin de dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on a lancé. On sait que ça va être très long, on sait qu'il va falloir 10 ans, peut-être plus, pour réparer Mayotte. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a une espèce de collusion entre ce besoin d'urgence, cette non-vision de ce qui va arriver. C'est très long de faire des bâtiments. Nous, on est là-bas depuis 2018 pour faire un lycée, un grand lycée des métiers du bâtiment. On est à la moitié du chantier, c'est très dur d'approvisionner des matériaux. Là, il y a une grève des fabricants de béton parce que il y a des conditions sociales qui sont pas acceptables. Donc c'est extrêmement difficile de travailler dans ce territoire-là, mais je pense que la question de la communication devrait être un vrai sujet.
Vous le disiez, vous êtes là-bas depuis 2018, certaines initiatives se mettent en place, vous-même, donc vous portez deux projets, de quoi s'agit-il?
Alors, à la fois, il y a un lycée des métiers du bâtiment qu'on est en train de construire de manière écologique et sociale, et puis aussi un étudiant scolaire, et ce qu'on a décidé, en plus de ces projets qui sont des grands projets publics, c'est de faire des petits projets, de faire des choses rapides. Donc là, on pense qu'il faudrait amener sur l'île des scieries mobiles. Il faut savoir que 80% de la forêt est tombée au sol. Il y a Francis Allais qui viendra parler des arbres tout à l'heure, mais là, les arbres sont par terre et en fait, on a besoin de bois pour construire. Donc, on pourrait comme ça acheminer des scieries pour passer de ces troncs à des planches et de ces planches à des habitations. Donc là, on essaie de montrer ces petits projets. Un deuxième petit projet, c'est ce qu'on appelle des farés, qui sont des lieux publics, des sortes entre un kiosque et un abribus, qui sont partout dans l'île, qui eux aussi ont à 80% été détruits par le cyclone. Et on se dit qu'on pourrait les reconstruire avec les habitants, pour les habitants, pour avoir des projets comme ça, un peu d'espoir dans une période qui est extrêmement difficile et douloureuse.
Comment de petits projets, comme vous les qualifiez, s'inscrivent au regard de l'immensité des besoins de l'archipel?
En fait, il faut presque faire tout en même temps, j'ai envie de dire. Il y a un défi d'infrastructure. Et donc là, je pense que le fait d'avoir un général à la tête de l'établissement en charge de la reconstruction peut être une bonne chose. Penser les transports, l'énergie, l'eau, voilà, tout ce qui est vraiment l'infrastructure qui devrait être beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante et résiliente. Et ensuite, il faut considérer qu'on ne pourra pas reconstruire comme avant et qu'il faut adapter aussi et qu'il faut s'appuyer sur la jeunesse de ce territoire, sa richesse, ses savoir-faire. Et en fait, ça peut pas être juste des choses décidées à Paris à 8000 km qui sont appliquées. Il faut vraiment empuissanter cette île, leurs habitants, qui ne demandent que ça et qui aujourd'hui sont face à un mur technique, un mur réglementaire, un mur financier et aussi un mur d'information. Et donc, c'est ces murs qu'il faut déconstruire.
Et on terminera par ces mots. Merci Nicolas Delon, architecte et cofondateur donc du collectif Encore Heureux Architectes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Quel candidat écologiste pour la mairie de Paris?
Les Verts élisent à partir d'aujourd'hui leur chef de file pour tenter de conquérir la capitale l'an prochain, notamment en espérant capitaliser sur leur expérience du pouvoir aux côtés d'Anne Hidalgo, dont ils revendiquent l'essentiel du bilan écologique. Au total, 4 prétendants largement méconnus du grand public sont en lice, puisque le sénateur Yannick Jadot s'est lui finalement retiré de la course après avoir échoué à être investi sans compétition.
Elles prolifèrent depuis des décennies sur le littoral breton.
Les algues vertes, des tonnes d'entre elles s'échouent chaque année sur les plages bretonnes. Or, en pourrissant, celles-ci dégagent du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel en cas d'exposition à de fortes concentrations. Alors bien sûr, de multiples initiatives ont été menées pour venir à bout de ce fléau issu de l'élevage intensif. En vain, Cécile de Carvez-Doué, bonjour.
Bonjour.
Hier, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au préfet de renforcer son action contre les pollutions au nitrate. La justice estime que les mesures mises en œuvre sont insuffisantes pour lutter donc contre les échouages d'algues vertes. Alors ce n'est pas le premier jugement en la matière, mais il redonne malgré tout un peu d'espoir, Cécile, aux associations.
Oui, c'est la 7e indécision de justice de ce type obtenue par l'association Eau et Rivières de Bretagne, qui lançait ce contentieux. Mais cette fois, elle est plus large. Plus large parce qu'elle reconnaît que les algues vertes sont non seulement préjudiciables aux plages, aux vasières, mais finalement à toute la Bretagne, à cause notamment de la pollution de l'eau potable. Et elle donne 10 mois à l'État, cette décision de justice, pour réparer ce préjudice, soit en nature, soit en réparation financière. Et c'est ça qui est nouveau. Parce que jusque-là, la justice demandait à l'État d'appliquer le plan nitrate ou les plans nitrates qui, comme le veut l'Union européenne, doit encore aboutir d'ici 2027 à diviser par 3 le taux de nitrate dans l'eau en Bretagne. Mais cette fois-ci, elle va plus loin. Et c'est ça qui réjouit Arnaud Clugery, le directeur et porte-parole d'Eau et Rivières de Bretagne.
On ne peut pas dire que rien n'a été fait et qu'il n'y a pas eu des résultats. Par exemple, rappeler que cette courbe de nitrate, elle a commencé à descendre à partir des années 90. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est que depuis 2015, elle ne bouge quasiment plus. La limite, c'est que si on ne change pas les systèmes de production, si on reste dans une agriculture, et notamment en Bretagne, un élevage qui produit près de 100 millions d'animaux sur 6% de la surface du territoire, qui importe des tonnes et des tonnes de soja, évidemment aussi des tonnes de fertilisants azotés sous forme d'engrais minéraux, les cultures ne peuvent pas absorber toute cette quantité de nitrate et donc c'est rejeté dans les milieux naturels. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que l'État a entre les mains un outil de régulation économique important qui s'appelle la politique agricole commune, qui doit permettre au système agricole d'évoluer vers une désintensification.
Parce que la politique agricole commune déverse chaque année 500 millions d'euros d'argent public dans l'agriculture intensive en Bretagne contre seulement 12 millions d'argent public pour lutter contre les marées vertes. La justice a donc donné 10 mois à l'État pour renverser ce déséquilibre. Réponse donc après en 2026.
Merci Cécile de Carvez-Doué.
Après des mois de blocage, la nouvelle version de l'affichage nutritionnel Nutri-Score va finalement pouvoir entrer en vigueur.
Oui, depuis 2017, vous connaissez ce logo avec des lettres et un code couleur qui permet aux entreprises volontaires d'informer sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Or, pour prendre en compte les nouvelles connaissances en matière de santé publique, eh bien, un nouveau mode de calcul a été élaboré. Sauf que la publication de l'arrêté nécessaire à sa mise en œuvre a longtemps été retardée, notamment en raison de l'instabilité politique, mais aussi de l'opposition de la ministre de l'Agriculture. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Finalement, après des semaines de tensions et de désaccords au sein du gouvernement, l'accord politique a donc fini par arriver.
Oui, 14 mois après le consensus scientifique qui a abouti à la nouvelle version du Nutri-Score, à savoir un mode de calcul qui pénalise davantage les produits à forte teneur en sel et en sucre. À l'inverse, les aliments riches en fibres ou en graisses non saturées auront un score amélioré. Ce nouvel algorithme a été établi par le comité scientifique du Nutri-Score, composé d'experts indépendants, en prenant en compte les récents travaux scientifiques. Mais pour le mettre en œuvre, il faut un arrêté signé par les ministres concernés, à savoir la santé, l'économie, le commerce et l'agriculture. C'est enfin chose faite, compte tenu des enjeux impératifs de santé publique, explique leur communiqué commun ce matin. De fait, le Nutri-Score est un outil pour permettre aux consommateurs d'avoir une information rapide et claire. Le but, c'est de lutter contre le surpoids et l'obésité et les pathologies associées, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Sous la pression de ses collègues, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a donc fini par apposer sa signature. Ces dernières semaines, elle avait pourtant expliqué qu'elle ne voulait pas le faire. L'actuelle ministre est opposée au dispositif depuis sa création, qu'elle a accuse entre autres de pénaliser des produits remarquables comme certains fromages. Les industriels qui utilisent cet indicateur ont désormais 2 ans pour mettre à jour leur emballage et apposer le nouveau Nutri-Score. Rappelons toutefois que cet affichage reste volontaire. D'ailleurs, Danone, qui l'avait adopté, a finalement décidé de retirer l'indicateur de ces produits qui se retrouveraient moins bien classés. En 2020, la Commission européenne avait, elle, proposé de mettre en place un logo nutritionnel harmonisé et obligatoire dans les 27 pays de l'Union, suscitant une très forte opposition des lobbies industriels. Le projet a depuis été enterré.
Merci Catherine Pétillon. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec des averses toujours possibles sur la Côte d'Azur et la Corse. Partout ailleurs, la tendance est à l'accalmie. Quant aux températures, elles seront comprises entre 6 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Waïba Kedash. À 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.